Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, je partage avec vous l'interview de Simon Fabre. Simon est un fiscaliste qui a rangé la robe et exerce aujourd'hui comme ingénieur patrimonial pour le groupe BNP Paribas. Simon était mon chargé de TD en droit des obligations en 4e année de droit et je suis heureuse qu'il ait accepté mon invitation, d'autant plus que ses années comme avocat ont été difficiles et qu'en parler n'était donc pas évident pour lui. Il nous parle de ses difficultés comme avocat et de sa reconversion bien sûr, mais aussi longuement de son parcours universitaire, un véritable cocktail d'échecs, de ressurprises, d'opportunités saisies, de censure sociale et de défis relevés. Je suis très touchée qu'il se soit confié avec autant de générosité sur son parcours, qui, je trouve, est une belle leçon de persévérance, d'audace et de remise en question. Cette interview a de loin été celle qui m'a donné le plus de fil à retordre en termes de réalisation, car entre un souci de carte de mémoire et des travaux trop bruyants dans la rue, nous avons enregistré l'épisode en 3 fois. Vous remercierez donc Simon à la fois pour sa générosité et pour sa patience. Pour ceux que les travaux dérangent beaucoup, je vous invite à avancer à la 52e minute et 30 secondes pour retrouver un calme plat. Comme toujours, je vous invite à laisser 5 étoiles de préférence et votre avis sur iTunes ou votre application préférée. Cette semaine, merci beaucoup à Hugo BP pour qui c'est un grand plaisir de m'écouter interviewer des avocats de tous les horizons pour se faire une idée plus précise des diverses manières dont s'exerce la profession. J'espère, Hugo, que cela t'aidera à trouver à ton tour la manière d'exercer qui te correspond. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Simon Fabre.
Bonjour Lila Louise Maréchaux.
Merci d'être mon invité sur Fleurs d'Avocat.
Merci de m'avoir invité. Je suis très, très honoré.
Simon, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat.
C'est un peu le fruit du hasard, tout ça. Je me suis retrouvé inscrit en fac de droit un petit peu par défaut. Suite aux inscriptions, à la fin de terminale, on doit faire un certain nombre de choix. Mon premier choix était de m'inscrire d'abord dans une double licence Sciences Po et Histoire, sauf qu'il fallait déposer le dossier le jour des résultats du baccalauréat au plus tard, avec évidemment la copie du diplôme du baccalauréat. Sauf qu'à la surprise générale de mes professeurs, puisque lors du dernier conseil de classe, ils faisaient des paris à savoir quelle mention j'aurais, je me suis retrouvé au rattrapage. Donc ça a été une première douche froide. Et de ce fait-là, j'ai pas pu déposer mon dossier. J'ai donc passé en parallèle les IUP de province que je n'ai pas eu. Et donc, face à ces deux échecs, je me suis retrouvé en septembre à commencer mon cursus d'études supérieures en fac de droit. Cursus qu'on m'avait évoqué comme étant difficile pour une première année, en plus à l'université, faut apprendre à travailler tout seul. J'étais un garçon, donc c'est encore plus compliqué à ce qui paraît pour les garçons, puisqu'on est un peu moins sérieux. Et donc je commence ce cursus en gardant à l'esprit que de toute façon c'est une année de transition sur laquelle j'ai rien à perdre, puisque je veux repasser les IEP. L'année se passe bien, le premier semestre est réussi, ce qui me démotive en parallèle par rapport à la préparation de l'IEP. En plus, mon père m'avait poussé pour que, vu les horaires à l'université, il trouvait ça normal que je puisse travailler un petit peu à côté, que j'ai pas l'impression que la vie était trop douce et trop belle. Donc tout ça fait que ma préparation au CNED à laquelle je suis inscrit est un peu mise de côté, et que donc forcément, à la fin de la première année, je réussis et je valide ma première année, donc on m'autorise le passage en deuxième année. Et puis, pour ce qui est de tenter les IEP, je décide de ne m'inscrire que à Paris. Je le tente, je le rate, avec évidemment un petit peu de déception, mais au final, je le vis bien parce que c'est plutôt une réussite d'avoir réussi ma première année que tout le monde m'évoquait comme si difficile et pour laquelle il fallait pas forcément que j'en fasse toute une histoire si je la ratais. Et puis la matière m'a plu, parce que assez diversifié en première année, des gens que j'ai rencontrés qui étaient très différents des gens avec qui j'étais au lycée, donc assez enrichissant. Des matières où on voit déjà des premiers syllogismes juridiques, même si la première année reste quand même très généraliste. Et puis des matières où on voit aussi des choses qui m'intéressent, l'histoire de la politique, le droit constitutionnel. Moi, j'ai toujours été assez intéressé par tous les sujets politiques, économiques, enfin
Les
de,
institutions, tout ça.
voilà, liés à la société, liés aux institutions. Donc, c'est vrai que je me lance, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, je lance cette deuxième année où, donc, moi, j'étais à l'université de Créteil pour ma licence. Et dès la deuxième année, histoire d'attirer et de se différencier, ils proposaient des choix parmi les matières pour avoir des dominantes plutôt civilistes, droit des affaires, droit public. Et moi, vu que je garde à l'esprit que je veux plutôt partir vers les administrations territoriales, fonctions publiques nationales, etc., je pense que j'ai plutôt intérêt à prendre finances publiques. J'ai une discussion au moment de faire les choix avec une camarade de promo à l'époque, qui elle me vend le fait que je dois prendre plutôt fiscalité dans mes choix, etc., parce que c'est une matière qui est très didactique, très pratique, et puis qu'en plus, par les gens qu'elle connaît, elle a récupéré les cours de l'année précédente et qu'on n'a plus qu'à les ficher, donc ça nous fait du temps de gagner pour préparer notamment le droit administratif, qui en deuxième année est un gros morceau. Et donc, je lui explique que moi, cette démarche de fiscalité, etc., c'est pas du tout ce qui m'intéresse, les impôts, et puis notamment permettre des économies d'impôts à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. À la base, c'était pas forcément ce qui m'attirait. Et que donc, moi, je veux absolument faire finances publiques. Et là, elle m'explique ce que je n'avais pas compris, que de toute façon, si je prends finances publiques, je suis obligé, dans le cadre des menus, des dominantes, de prendre aussi fiscalité. Donc, bah, finalement, le hasard fait que je prends ce menu-là parce que je me dis que finances publiques, ça va me plaire et que je passerai un second semestre un peu moins intéressant, mais que bon, bon an, mal an, on va le faire comme ça. Et puis finalement, j'attaque mon premier semestre et c'est là que j'ai un semestre où je m'ennuie en finances publiques. Je comprends pas du tout l'intérêt. C'est très réflexion fondamentale, très détaché. J'arrive pas à rentrer dedans. Les TD, c'est le TD vraiment en lui-même, le sujet, qui n'arrive pas à m'intéresser. J'arrive pas à me sentir vibrer, entre guillemets, même si je pense que j'ai jamais vraiment vibré en allant en cours. Mais voilà, je vois pas l'intérêt, je vois pas la perspective, je sais pas comment je vais pouvoir m'amuser là-dedans. Et donc forcément, ça remet aussi en perspective ma volonté de travailler dans les IEP, enfin de continuer mes études dans les IEP et de travailler dans les fonctions publiques, qu'elles soient territoriales, nationales, etc. Parce que bah, je me dis, si ça m'intéresse pas, faire ça toute ma vie, ça va quand même être compliqué, donc il va falloir que je trouve autre chose, parce que j'anticipe déjà un deuxième semestre où les matières que j'ai choisies sont censées ne pas me plaire, et où donc je me dis, bon, bah, je vais me retrouver en fin de deuxième année de droit avec en fait un cursus qui me plaît pas. Je commence à regarder un peu à droite à gauche ce que je peux faire d'autre. Et puis bon, bah, je continue comme ça, faut quand même aller au bout. Le deuxième semestre commence, j'avais validé mon premier semestre.
Donc là, arrivé le moment de faire de la
Donc
fiscalité.
voilà, la fiscalité arrive, je me dis bon, bah, on va s'accrocher. Et puis je sors de mes premiers cours d'amphi, tout va bien, j'attaque le premier TD et là je suis enchanté. Effectivement, une matière, on commence, on fait 1 heure et demie de cas pratiques. Je trouve ça super, c'est hyper marrant, la logique, c'est juridique, mais en même temps pas que. Donc la logique me plaît vachement. Donc ça me remotive. Je me souviens encore qu'au bout de quelques semaines, je disais à mes parents, tiens, cette matière, c'est vraiment marrant. Et mes parents me regardaient en me disant, donc toi, la fiscalité, tu trouves ça marrant? Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, oui, c'était peut-être pas le bon terme à utiliser. Mais effectivement, je prenais du plaisir. Donc bah, le semestre se passe très bien. Au final, je me dis que bah tiens, le droit est hyper riche, qu'il faut pas se fermer de porte. Et bah, j'avais été pris en parallèle dans des IUT plus accès commerce. Et puis je me dis que bon bah en fait non, je vais aller au bout de la licence et on verra à la fin de la licence que effectivement le droit offre beaucoup de perspectives. Et donc je continue en troisième année, de nouveau avec une dominante fiscalité, et j'embraye, Et puis le début de troisième année, en fait, j'étais un peu lassé d'aller tout le temps dans la même université. J'étais dans une université qui était assez loin du domicile de mes parents, puisque j'ai grandi dans ce qu'on appelle les banlieues pavillonnaires, et qu'au début des années 2000, les transports urbains étaient très très compliqués, beaucoup moins développés que ce que ça peut être aujourd'hui. Donc je mettais à peu près 1 heure et demie le matin pour aller en cours, 1 heure et demie le soir pour rentrer, avec des horaires qui sont décalés. Mes amis ont soit raté la première année, soit raté la deuxième année. Donc je me retrouve en troisième année avec des camarades de promo, des gens avec qui je m'entends bien, mais qui ne sont pas non plus mes amis essentiels, même si depuis j'ai créé des amitiés avec eux. Mais à ce moment-là, un petit peu perdu, un petit peu loin, et puis pareil, une rencontre en début de troisième année avec un camarade de promo qui me dit, bah tiens, nous là on est un groupe, on s'inscrit, on va faire le deuxième semestre en Espagne. Et je me dis, bon bah ouais, ça a l'air cool ça comme projet, c'est sympa, c'est une manière de voir aussi d'autres façons de travailler, et puis bon, et on avait tous l'auberge espagnole en tête. Donc je me dis, bah tiens, je m'inscris avec eux. Alors faut savoir qu'à l'époque, j'avais fait espagnol LV2, mais j'étais, comme on dit, una vaca.
Vraiment, hola, qué tal, quoi.
Ouais, c'était loin, donc j'étais en troisième année. Le bac d'espagnol, bah, c'était 2 ans et demi avant. Je pense que je connaissais même plus la différence entre ser et estar. Et je sais pas pourquoi, je me dis, ouais, je vais y aller. Donc je regarde, et puis mes parents, bon, on voit que ça peut passer financièrement, que ça peut être une bonne expérience. Mes parents, encore une fois, me font confiance, hein, parce qu'ils ne sont pas du tout issus du milieu juridique, universitaire, etc. Donc ils me demandent quand même, mais est-ce que c'est bien vu ou pas, etc. Et puis moi, à ce moment-là, je leur dis que oui, c'est très bien, alors que fondamentalement, j'en suis pas forcément persuadé, mais je me dis que je saurais bien en faire quelque chose de positif. Donc j'envoie le dossier, je suis admis pour aller passer un entretien, un test quand même de niveau. Donc j'essaye de me préparer tant bien que mal, je ressors mes cours d'espagnol du lycée. Et puis le groupe de potes avec qui je devais partir, au fur et à mesure passe et puis se démotive en fait. Puis ils ont un peu plus de conscience que moi, j'imagine, du fait que à l'époque, donc on est en 2000. 2006-2007, à l'époque, c'était pas forcément une vraie plus-value.
Je pense que maintenant, selon les facs, c'est toujours pas hyper bien vu. Hein.
Je sais que toi, tu as suivi un double cursus. Moi, j'ai
Ouais.
trouvé ça hyper, hyper enrichissant, l'expérience que vous viviez dans votre promo.
Mais je pense que nous, c'est un peu différent parce que c'est rattaché aux doubles maîtrises. Donc, il y a une espèce d'aura sur les doubles maîtrises de droit français étranger. Alors que Erasmus, c'est vu un peu autrement et c'est vraiment, et encore plus en Espagne, perçu comme l'année de vacances. Je pense que le film de Clapiche a fait à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal.
Oui, non, mais c'est certain, c'est certain.
Ouais.
Et donc, enfin, je finis par passer mon examen. Le prof, donc d'espagnol, m'arrête au bout de 5 minutes. Et il me dit que non, mais je suis gentil, mais ça va pas le faire. Puis on discute, on se remet à discuter en français. Et puis là, il me fait comprendre qu'en fait, effectivement, il a un nombre de places, je sais plus, de 10 ou 15 étudiants. Qui ont le droit, enfin, qu'il a le droit de valider et qu'au final, aujourd'hui, il n'en a validé que 3 ou 4, que donc il lui reste énormément de place et que parmi tous les autres, ils ne sont pas très motivés, même ceux qui ont le niveau, en fait, ont abandonné, et que moi, je lui dis, ouais, mais moi, je suis hyper motivé, quoi, je veux vraiment y aller. Et à l'époque, j'ai mon cousin qui vit en Espagne depuis quelques années, qui a fait sa vie là-bas, et je ne sais pas pourquoi, je lui mets ça dans la conversation, et donc il se dit que je vais pas être tout seul. Et donc là, on reprogramme une date et il me dit, je vais vous interroger sur ça, 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 ça. Il me donne deux textes à préparer. Et donc, je passe une semaine à fond à préparer ça, à revoir tous mes verbes, toute ma conjugaison, enfin, à apprendre l'espagnol,
Serestar, tout ça,
voilà,
à nouveau.
à reprendre les bases. Et je me dis, est-ce que je fais vraiment bien d'y aller? Parce que le gars me donne une deuxième chance. Il voit bien que... Bah, je parle pas espagnol et ça va être très compliqué. Et puis bon, j'y vais, je fais l'examen, il me dit, ouais, franchement, là, sur l'examen, c'est nickel. Et il me demande quand même, est-ce que vous vous sentez d'y aller au risque bah, de rater votre année, quoi? Et puis je lui dis oui. Je me dis, bon, de toute façon, j'ai réussi ma première année, ma deuxième année du premier coup. Tout le monde me disait que la licence, souvent, on la faisait en 4 ans. Bon, bah, j'ai pas utilisé de joker. Au pire, je l'utilise là. Et me voilà parti en Espagne. À Madrid. Alors moi, c'était une petite spécificité. Mon université, donc à Créteil, avait décidé de passer un accord, non pas avec la Complu, qui est la grosse université,
Ah ouais, la Complutense.
la grosse université de Madrid, mais on était rattaché à une petite école privée.
C'est Carlos Tercero.
Je me souviens plus du nom. C'était dans les beaux quartiers de Madrid. Et donc, en fait, c'était un format où on n'était que en TD.
C'est génial. Parce que, enfin, franchement, la complot. Bon, bref.
Voilà, alors moi j'avais j'ai rencontré des étudiants sur place qui étaient tous à la Complutense, qui ont vécu un autre Erasmus que le mien. Moi j'arrive dans cette université, école, parce que c'était une espèce d'école de commerce, université de droit, c'était assez spécial. Et le chargé de l'enseignement des relations en fait internationales était un Espagnol qui avait étudié à Sciences Po, qui était un amoureux de Paris et un fan de la France. Donc je me retrouve avec une autre camarade de mon université, que je ne connaissais pas, donc on se retrouve dans le bureau de cette personne, je me souviens. Il nous explique un peu le fonctionnement, etc. Donc en espagnol, donc moi, je comprends pas grand-chose. Je me tourne régulièrement vers ma camarade pour voir si c'est plutôt positif ou négatif. Elle me dit de me rassurer. Et il nous explique les examens. Et il nous explique que comme chez lui c'est des TD, on va être intégré dans une classe chacun, qu'on va suivre les cours comme tout le monde, qu'on aura les mêmes devoirs à faire que tout le monde et les mêmes examens que tout le monde, parce qu'il respecte énormément la France, etc., etc. Et que donc il veut pas nous faire de régime différenciant qui serait un diplôme au rabais. Et donc à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi pas? Moi, je veux bien un diplôme au rabais, parce que là, je pense que déjà, l'espagnol, je vais galérer. Et puis au final, je le remercie, hein, parce qu'il nous a vraiment mis dans le bain. Et bah, je me retrouve à passer des heures carrées à la bibliothèque, à apprendre du droit espagnol. Alors heureusement, Napoléon était passé par là, et donc il y a quand même une logique juridique qui est assez proche. Et puis, je m'aperçois assez vite que les professionnels du droit espagnol apprécient beaucoup, les étudiants en droit français. Parce qu'on nous a appris une certaine rigueur, une certaine logique. Et c'est vrai que je me retrouve dans certaines matières à faire partie des bons étudiants. Alors, je paraphrase énormément, les bouquins au début. Parce que bah, mon orthographe, j'en suis pas sûr, etc. Et puis, bon, bah, voilà, une fois que vous êtes dans le bain, soit vous nagez. Soit vous coulez, et puis bah, encore une fois, j'avais la chance d'avoir mon cousin sur place, donc qui m'a aussi beaucoup aidé, les autres étudiants qui m'ont aidé aussi à progresser en espagnol. Et puis la matière me plaît, j'ai aussi la chance dans ce cadre-là d'avoir fait des choix de matière qui sont plutôt finances publiques, fiscalité, etc. Je comprends à peu près la logique, donc je me rattache à des sujets qui me sont plus familiers, et donc l'année se passe plutôt bien, sauf cette matière avec le fameux professeur qui nous faisait en fait droit constitutionnel espagnol, et où lui, son cours, c'était vraiment des cours façon Sciences Po. On réfléchit ensemble, pas forcément sur des choses que vous aurez à l'examen, mais c'est vous apprendre à réfléchir, et puis je vous donne mes supports de cours sur lesquels vous serez interrogé, et vous devez les bosser vous-même. Je ne valide pas sa matière, mais de manière globale, je valide mon semestre de très belle façon au niveau de la moyenne.
Donc encore un beau défi relevé, non?
Alors, je pense que oui, et à ce moment-là, je rentre et on m'apprend. On venait de passer dans le système l'année d'avant ou les 2 années précédentes, je ne me souviens plus, LMD. Et donc, comme je loupe cette matière, je me retrouve au lieu d'avoir, je ne me souviens plus, c'est 30 par semestre, donc c'est 30 ou 35. Et cette matière représentait 5 unités de valeur. Et comme je ne l'ai pas validée elle-même, je me retrouve avec un nombre d'unités de valeur insuffisant pour avoir validé l'année, enfin le semestre. Et donc, je me retrouve, en ayant validé mon premier semestre en France, à rater mon deuxième semestre en Espagne. Ils voulaient me faire repasser mes rattrapages en Espagne, ce qui était une possibilité, mais les rattrapages n'avaient lieu qu'après la rentrée en France.
C'est en septembre, ouais.
Qui était en septembre, et donc je me retrouvais en fait dans une zone grise où je ne savais pas vraiment ce que j'allais pouvoir faire. Je finis par accepter le fait que je vais redoubler ma licence, enfin mon deuxième semestre de troisième année, et quand je reviens d'Espagne, je continue à travailler comme serveur, toujours dans le même restaurant, restaurant qui à l'époque subit une procédure de redressement judiciaire. Le patron avait aussi des petits retards de paiement vis-à-vis de moi, et un jour, en fait, on discute fermement. Je lui fais comprendre que bon, dans ce cas-là, moi, je vais arrêter de bosser chez lui, je trouverai un autre établissement. Et puis, à ce moment-là, son avocat vient pour régler des affaires liées à la procédure. Et donc, je sais pas pourquoi, hein, j'attrape mon patron et je lui dis bon. On va se quitter bons amis, tu me présentes ton avocat, tu lui dis que là, moi, il me faut un stage, il faut que tu réduises de la masse salariale, tu m'as dit, tout ça, hein. Donc comme ça, tout le monde est gagnant. Et il me dit oui. L'avocat en question parle quelques minutes avec moi en me disant, ah, vous êtes en licence, ok, bon, ouais. Bon, pourquoi pas un stage.
Là, il se dit, putain, bon à rien, mais bon, c'est quand même le... C'est mon client qui me...
Voilà, il se dit, sans doute que, bon, ok, il me dit que là, il va avoir une année de licence un peu légère, etc. Bon, allez, je le prends, c'est un stage. C'est 3 mois. Et en plus, à ce moment-là, il me dit pas qu'il me prend, il me dit, bon, moi, je pars bientôt en congé, je vous rappelle. Et effectivement, moi, l'été se passe, je continue de bosser dans le resto. Et à la fin de l'été, je reçois un appel que j'attendais plus. Donc j'y vais, ça se passe bien, et il décide de me prendre pour 3 mois. Et j'attaque et je me lance, et puis je découvre ce que c'est d'être avocat. Alors lui, c'était un ancien conseil juridique qui avait profité en 92, je crois, de la fusion des professions, donc qui avait une approche aussi qui était différente. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est le seul avocat que je connais, que je rencontre. Toute petite structure, il avait une collab, lui, plus des intervenants extérieurs, experts comptables, etc., et une assistante. Je me retrouve dans un bureau à faire du boulot, moitié assistant, moitié jeune collab, etc. Et puis sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas, les entreprises en difficulté, procédures de redressement, liquidation, etc. Dans des contextes qui sont pas toujours faciles dans la relation client, parce que c'est souvent des petits entrepreneurs, ou plus gros, qui voient leur vie professionnelle prendre des tournures quand même difficiles. Donc moi, à l'époque, j'ai 22, 23 ans, un truc comme ça. Je connais pas grand-chose de la vie professionnelle, pas grand-chose de la vie des affaires. Et je me retrouve à devoir conseiller des gens, leur dire, faut taper sur tel poste de ressources, le plan de redressement, etc. Et je me retrouve encore une fois à la croisée des chemins entre le droit, la procédure, parce que il y a un certain nombre de délais, il y a des obligations déclaratives sur... la cessation des paiements, les choses comme ça, ce que ça implique, etc. Et puis l'accompagnement l'accompagnement humain et puis économique, en disant peut-être que l'affaire on peut la relancer en faisant ça, pourquoi comprendre des business que je connais pas du tout. Et ça me plaît, je me dis ouais, c'est super d'être indépendant. En plus, je le vois, mon patron, il est tout seul dans sa petite boutique, il fait tourner, il a l'air d'être plutôt heureux. Il a un caractère qui est pas toujours facile, mais que j'apprécie, parce que dans la relation pareil avec les clients, des fois je me dis il est un peu dur quand même, mais c'est normal, ils sont en difficulté, donc ils ont du mal à le payer, ils devraient peut-être, et en fait il reste très ferme, etc. Il m'apprend aussi beaucoup de choses, ça me plaît d'autant plus que derrière je refais un coup de bluff et il me propose de renouveler le stage. Et donc, je lui dis que non, moi, je peux pas, etc., ça m'intéresse pas. Et puis que surtout, en tant que stagiaire, on doit être là tout le temps. Et que moi, je vais attaquer une période de cours en alternance. Donc, je lui propose en fait un CDD en disant, moi, je veux bien un CDD, mais 3 jours par semaine, parce que mes cours vont être de 2 jours et qui ira jusqu'à la fin de l'été. En disant, moi, c'est ça ou c'est rien. Bon, j'étais pas cher, hein, que ce soit en CDD ou en stage, j'étais encore moins cher. Puis, il l'accepte. Donc je me dis, ça c'est cool, déjà il me fait confiance, Ça veut dire que ça s'est bien passé. Et puis, donc, je fais un an comme ça, au final, dans ce cabinet, à faire des entreprises en difficulté, etc. Et puis, à la fin de ce stage, je commence à me dire que ouais, le monde des affaires, c'est quelque chose qui me plaît. Le côté juridique et en même temps économique, etc., c'est quelque chose qui me plaît, mais je ne pense pas encore à être avocat. Je me dis, bon, avocat, c'est quand même loin, c'est compliqué, etc. Et il me propose même à la fin de m'embaucher définitivement en CDI. Il me le propose, je décline, parce que je me dis que je veux quand même faire aller au bout du cursus, avoir un quatrième, voire cinquième année, et que si je veux avoir une cinquième année, il faut en quatrième année que là, j'arrête un petit peu mes conneries de je choisis un peu au hasard, de tiens, cette matière peut me plaire, etc. Et il faut que je me pose un petit peu et que j'ai un dossier un petit peu... Il faut que je lui donne de la cohérence, là. D'autant que pendant cette année, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai appris qu'il y avait deux masters en France, à la Sorbonne et à Aix, qui à l'époque proposent, dès la quatrième année, une spécialité en droit fiscal. Parce que ça, c'est la seule chose à ce moment-là dont je suis sûr, c'est que c'est une matière qui me plaît et que ça lie le côté droit des affaires, économie, et puis droit, etc. Donc je postule à la Sorbonne et à Aix, et je ne suis retenu qu'à la Sorbonne. Donc, ce qui est très très bien, ce qui pour moi était déjà inespéré, parce que je me disais, ouais, quand même, t'as fait un semestre d'Erasmus, est-ce que c'est vraiment bien? T'as redoublé, donc est-ce que c'est vraiment bien? Mais j'avais vachement axé sur l'expérience que je venais de vivre pendant un an en cabinet, du projet qui était en train de mûrir et que forcément j'enjolive un peu sur ma lettre de motivation. Donc j'attaque mon année, je découvre une autre université, Paris, la Sorbonne, du prestige pour moi, en plus qui arrive de Créteil. Donc en termes de temps de transport, ça ne me change pas grand-chose, hein, c'est toujours aussi loin. Je découvre cet univers impitoyable, comme on dirait, qui me fait très bizarre. Heureusement, j'ai de la chance, comme je suis dans un master qui est très spécialisé, on est beaucoup à venir d'autres universités et on se regroupe un peu entre nous. Donc beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Je me plonge, comme je l'ai jamais fait dans mes cours. Alors je l'avais fait un peu en Espagne, justement, parce qu'il y avait le côté espagnol, plus les cours, etc. Et je pense que à ce moment-là, ça m'a beaucoup servi. C'est pas facile, mais ça me plaît beaucoup. Et là, je me dis, ok, j'ai pris la bonne voie, mais je sais pas ce que... J'ai pris la bonne voie parce que ça me plaît, mais je sais pas ce que je vais faire au bout. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, je continue à me poser des questions et je sais toujours pas que je vais devenir avocat. Et je me dis même que c'est pas pour moi. Parce que, encore une fois, être avocat, c'est très compliqué.
Donc c'était ça dans ta tête, c'était
ouais,
compliqué.
C'était un discours qu'on m'avait beaucoup, beaucoup dit. Et puis, c'est vrai
à la
que...
fac ou dans ta famille ?
Plus dans ma famille. Plus dans ma famille, parce que pas du tout issu du milieu, parce qu'on ne connaît pas du tout ça. Et puis parce que bon, ça reste une profession...
Qui impressionne,
ouais, tout à fait. Donc, puis comme on connaît... personne qui fait ça, elle reste assez distante. Et même si mes parents, j'ai eu une chance incroyable, mes parents m'ont toujours poussé, m'ont toujours laissé faire un peu ce que je voulais. Sur ça, il y avait une certaine réserve de se dire ouais, mais peut-être pas pour nous. Et puis ils avaient des amis dont les enfants avaient aussi fait du droit, ils s'étaient pas forcément épanouis, et puis certains avaient beaucoup entretenu ce discours aussi, ils étaient un peu plus âgés que moi, et donc ils m'entretenaient aussi ce discours de dire ouais, mais si t'es pas fils d'eux, etc., notaire,
en fait.
Voilà, donc je me dis bah ouais, c'est pas pour moi, mais je trouverai autre chose. Donc l'année se passe très bien, je passe en Master 2, et là, donc je rentre en Master 2, qui à l'époque était dirigé par le professeur Revet, un Master 2 de gestion de patrimoine, technique juridique, mais technique fiscale aussi. Ce que j'aimais bien les deux. J'arrivais pas à faire le choix, donc là c'était parfait pour moi. Et là je rencontre un professeur, enfin qui est professionnel, qui travaille chez BNP Paribas, qui est banquier privé gestion de fortune, qui nous fait une des interventions en matière de fiscalité du patrimoine. Donc je peux le citer parce que je l'apprécie beaucoup. C'est Monsieur Aveline. Tout de suite, j'adore. J'adore son univers, j'adore son approche. Je lui demande d'être mon responsable de mémoire. Puis l'année passe, donc je crée de mon côté, en tout cas, je sais pas si lui de son côté c'est réciproque, mais moi je crée une admiration, une affection en tout cas pour ce professeur.
Une relation privilégiée.
Voilà, je l'apprécie beaucoup, etc. Et donc je prends beaucoup de ses conseils. Et je lui dis, écoutez, moi je sais pas ce que je veux faire. Vous savez, etc. Je me pose plein de questions. Et il me parle d'un métier qui est ingénieur patrimonial dans les banques ou les assurances, les family office, etc. Enfin, à l'époque, il n'y a pas trop de family office. Et donc, ce métier me plaît beaucoup. Il me dit qu'il me verrait bien faire ça, etc. Mais qu'effectivement, c'est un métier qui demande de la maturité, beaucoup de confiance de la part des clients, etc. Et que donc, à son sens, une première expérience en tant qu'avocat est tout à fait justifiée et que vu le profil que j'ai, ce que je recherche, etc., bah, une expérience d'avocat pourrait être pas mal. Donc il commence, lui, pour la première fois, à me mettre en tête l'idée éventuelle de passer l'examen. Mais en même temps, il m'a parlé de cet autre métier qui est ingénieur patrimonial et où je me dis, ouais, mais ça a l'air super bien, quoi. Et donc je suis un peu perplexe. Donc j'étais inscrit à l'UEJ, hein, au cas où, mais je décide finalement de ne pas franchir le pas et de ne pas passer l'examen avec bah, tous mes camarades qui, eux, décident de le passer en fin de Master 2. Parce que je me mets beaucoup de censure personnelle, comme on le disait. Et je me dis, bon, allez, je vais trouver, et puis je vais être ingénieur patrimonial. Donc le marché du travail en 2010 dans les banques continue d'être assez...
Sinistré.
Sinistré, voilà, c'est le mot. Moi, j'arrive avec mes 25 ans à dire, bah, j'aimerais bien être ingénieur patrimonial, c'est-à-dire une fonction dans laquelle j'accompagne les clients,
Très
les plus
fortuné.
fortunés, etc., et où je vais leur donner des conseils. Et où donc, bah, forcément, du haut de mes 25 ans, avec mon expérience qui est proche de rien, l'ambition était...
Serveur et avocat
voilà.
pour des entreprises en difficulté.
Voilà, j'avais beaucoup d'espoir. Évidemment, on me fait vite comprendre que ça va être compliqué. Je m'accroche, je passe des entretiens d'embauche dans différents établissements bancaires, où là, on m'explique qu'ingénieur patrimonial, oui, mais pas tout de suite, il va falloir passer par d'autres étapes. Donc, entre-temps, moi, j'ai trouvé des stages dans des études notariales. Et puis, l'année avance. Je suis sur le point de signer un CDI dans une grosse banque, enfin une grosse banque française, pour travailler dans une agence en fait, en tant que chargé de clientèle professionnelle. Où en fait, là, j'ai rencontré, je pense, une des meilleures RH que j'ai jamais rencontrées, parce qu'elle a réussi à me vendre un métier qui n'avait rien à voir avec mon cursus et avec mon projet. Et en sortant de l'entretien d'embauche, effectivement, je me disais, mais ouais, elle a raison, c'est ça que je veux faire, quoi.
Alors, je sais pas si c'est une bonne RH, mais en tout cas, c'est une bonne commerciale.
C'est une bonne... Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Parce que, en fait, très vite, je suis sur le point de... Donc, on négocie. Ma mère est très contente parce que je suis sur le point d'avoir un CDI, etc. Donc, dans notre schéma de fonctionnement, c'est super. Et puis, juste avant, au moment de franchir le pas, de dire, ouais, bon, c'est bon, go, je prends un pot avec des camarades qui, eux, ont réussi le CRFPA. Donc, là, on est au mois de mars, ça fait 3 mois maintenant qu'ils sont à l'EFB. Et qui me disent, mais Simon, pourquoi tu l'as pas passé, au fait, on n'a pas compris, etc. Donc, je leur explique un peu. Et c'est là, eux, qui me disent, non, mais arrête, là, tu te mets des barrières. Nous, on l'a eu, toi, il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas. Maintenant, il y a des prépas, on passe tous par là. Si tu as envie,
Essaye, ouais.
essaye. Faut que tu y ailles. Et donc, je finis par me dire, ouais, bon, de toute façon, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je le regretterai. Ça fait 3 ans que je me dis qu'effectivement... Parce que ça a commencé en fait quand j'étais en Espagne où on me disait, tu sais, Simon, vous les Français, vous travaillez super bien. En Espagne, à l'époque, la réglementation pour devenir avocat ne nécessitait pas de passer un examen.
C'est comme ça que je suis devenue avocate sans avoir passé le... aucun examen. Bref, si la déontologie quand même.
Voilà. Et je trouvais ça très bien parce que, et puis je me souviens pour en avoir parlé avec certains étudiants de ta promo qui me demandaient est-ce que je dois pas, etc. Moi, j'incitais forcément, tant que la fenêtre était ouverte, à lancer aussi une première expérience par le biais de l'Espagne, enfin à profiter aussi des fenêtres qui étaient ouvertes. Aujourd'hui, ça a changé, il me semble.
Ouais, maintenant, il faut qu'il fasse un master en Espagne.
Oui, voilà. Quand j'étais en Espagne, en tout cas, on m'avait déjà dit « Ah, mais tu sais, tu pourrais continuer chez nous, ce sera assez vite, facile pour toi. » Et puis après... Donc ça avait déjà germé un petit peu, et puis je me lance. Je me souviens que j'annonce la nouvelle à mes parents en disant « Bon, bah, finalement, je refuse
le CDI, le CDI à la banque,
à la banque les opportunités, etc. » Et je lâche tout ça. Donc je vais continuer pendant quelques mois, parce que là on est à peu près au mois de mars-avril, je continue pendant quelques mois être un peu stagiaire, ceci, et puis je vais attaquer la préparation du CRFPA. Et je me souviendrai toujours, c'est la première fois que, je disais, mes parents m'ont toujours soutenu, et c'est la première fois que ma mère m'a dit « Ok ». Elle était un petit peu sonnée parce qu'elle ne comprenait pas forcément la réflexion, et elle m'a dit une phrase, j'ai plus les mots exacts, du genre « Comme tu vas pas y arriver, en septembre, qu'est-ce que tu prévois ? Est-ce que tu sais déjà ce que tu prévois ?» Quelque chose comme ça. Mais pour elle, c'était pas « Je ne peux pas y arriver parce que... » C'était « Je ne peux pas y arriver parce que je m'y prends trop tard. » Parce que, encore une fois, c'était un choix un peu hasardeux. Tiens, j'ai discuté avec des potes autour d'un verre qui m'ont dit « Mais allez, lance-toi. » Et puis, parce qu'il y avait toujours cette petite chanson dans notre tête qui disait « Oui, mais pas pour nous, quoi. » Et je pense que ça m'a décuplé l'énergie. Parce que, par contre, elle a mis en œuvre tout ce qu'elle pouvait pour me mettre dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que, de nouveau, je suis redevenu un enfant de 4 ans et demi qui n'avait plus aucun besoin à s'occuper, ni manger, ni quoi que ce soit. J'arrivais, je m'asseyais, je repartais, je mangeais, je dormais, je faisais ce que je voulais. Mais je n'étais concentré que sur cet objectif. Je sais qu'elle m'a beaucoup accompagné sans me le dire. Donc, je me retrouve à passer le CRFPA, je l'ai du premier coup. Grosse satisfaction, et je me lance donc dans l'ESB, et c'est là que je me dis ok, c'est bon, je vais être avocat, ça y est. Mais à ce moment-là, je connais pas ce que c'est d'être avocat.
C'est pas un métier dont tu avais particulièrement rêvé.
J'ai pas particulièrement rêvé de ça. J'avais fait un premier stage en fin de master 2 quand même, dans une grosse enseigne anglo-saxonne qui s'était pas révélé être hyper excitant. J'avais l'impression d'être un petit pion, etc. Tout le monde m'avait dit, plus jeune au lycée, notamment, je me souviens d'une prof d'anglais qui trouvait que j'étais très très véhément dans mes remarques, etc., qui m'avait dit, écoutez, monsieur Fabre, c'est très bien, vous avez des principes, mais dans cette classe, c'est moi qui fais la loi, et si vous voulez discuter de la loi, vous avez qu'à être avocat. Et je me souviens toujours de cette phrase où j'ai trouvé ça totalement injuste parce qu'elle était en injustice complète vis-à-vis d'un camarade de classe. Et où en fait, ça plus ça plus ça, je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai envie d'être avocat, mais le côté noble, etc., qui n'était pas du tout en fait le métier que j'envisageais de faire. Et donc, je me lance dans ce cursus. Et puis...
Comment se sont passés tes stages, justement ?
Voilà, là, il faut attaquer les premiers stages. Donc, je commence un peu comme tout le monde à chercher. Vu que je connais pas, je prends la liste du Legal 500. Et puis, je pars du premier, je vais jusqu'au dernier. J'envoie des CV partout. Je sais pas qui fait quoi. J'essaie de discuter avec un peu des potes. Pourquoi lui ? Pourquoi pas lui ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Je suis pris à quelques entretiens, mais je sens pas forcément que ça se passe très bien. Et puis en fait, donc là je cherchais à ce moment-là pour le stage PPI et en même temps le stage final. Et puis pareil, en discutant avec une amie qui elle était à l'ESB l'année d'avant et qui faisait son stage l'année d'avant ou deux ans d'avant, je sais plus. Elle était en stage final, en tout cas dans un cabinet d'avocat. Et son stage, elle avait décidé de faire 2 fois 3 mois. Et donc son stage arrivait à échéance des 3 mois, et elle allait partir dans un autre cabinet. Son stage s'était très bien passé, et le cabinet lui demande si jamais elle connaît quelqu'un pour la remplacer. Et pareil, elle pense à moi, donc j'envoie mon CV. C'était le cabinet Franklin, qui à l'époque était en plein développement, a été créé depuis quelques années, mais sur la partie fiscalité, avec l'associé qui le dirigeait à l'époque, était en plein développement. J'envoie mon CV, ça se passe très bien. J'arrive, je ne sais rien faire, hein, très clairement. Et ça se passe très bien. C'est un cabinet, vraiment, j'en garde un excellent souvenir. Ça se passe très bien de mon côté. Je pense qu'ils sont plutôt satisfaits aussi, puisqu'ils m'ont proposé ensuite de faire mon stage final chez eux, ce que j'ai accepté. Donc en fait, je fais en tout 2 sessions de stage chez eux.
Et qu'est-ce que, quand tu dis ça se passe très bien, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce
ça se passe très bien, je suis intégré dans les équipes, je trouve une personne qui à l'époque était counsel, qui depuis est devenue associée, que je considère un peu comme un mentor, parce qu'il a envie de transmettre. Parce qu'il a envie de me prendre par la main, de me montrer ce qui lui plaît dans son métier, de me montrer surtout que ce qui lui plaît n'est pas forcément ce qui va plaire aux autres. Il n'en fait pas des postulats. Voilà, il me fait comprendre que lui, il fonctionne comme ça. Donc il faut, si on veut travailler avec lui, fonctionner de telle ou telle manière. Mais que derrière, avec le temps, il y a une possibilité d'évoluer et qu'il me fait bien comprendre, et je le vois avec les autres personnes avec qui il travaille, avec qui je bosse aussi, qu'ils ont d'autres approches, d'autres fonctionnements. Et très vite, ce qui m'a marqué dans ce stage, donc j'avais fait un premier stage de 4 mois dans cette grosse structure américaine, où en fait, voilà, on me donnait des recherches, je les apportais, ils les analysaient, et puis j'étais pas forcément au courant de ce qui se passait. Là, les premières recherches, j'arrive, je les dépose comme tout le monde sur le bureau de la personne qui me les a demandées, et on m'interpelle et on me dit donc toi, qu'est-ce que t'en penses ? Toi, qu'est-ce que tu ferais ?
Ouais,
toi,
tu t'es valorisé comme individu. Ouais.
Donc les premières fois, ça surprend, on se demande si c'est vraiment à nous.
Moi, vous voulez dire.
Voilà. Moi, c'est-à-dire, moi, je suis stagiaire ici, donc pourquoi tu me. D'accord, si c'est vraiment à moi, donc ça surprend et très vite, en fait, c'est plaisant. En fiscalité du patrimoine, il y a une particularité, c'est qu'on fait les déclarations d'impôts des gros clients. Et c'est donc ce qu'on appelle la busy season. Et ça va de... Voilà, ça commence en règle générale mi-avril. Là, ils sont en plein dedans. Jusqu'à mi-juin, fin juin, en fonction des années et des profils de clients. Et c'est une période où, en fait, vu qu'il y a énormément de déclarations à envoyer, de documents à récupérer, etc., on vit un peu au cabinet. On finit tard le soir, le week-end, c'est souvent nécessaire de revenir. Mais j'avais vécu cette busy season dans la structure précédente où, en fait, on me faisait comprendre qu'il n'y avait pas le choix, il fallait revenir, alors qu'il y avait des jours où je me disais... Bah là, moi, j'ai rien à faire parce que tout le monde est en train de relire, donc je suis en train d'attendre.
Ouais.
Et là, en fait, je suis tout le temps alimenté. Quand j'ai rien à faire, on me dit, rentre chez toi. Quand il y a des choses à faire, on me dit, il va falloir que ce soit fait pour telle date. Mais on m'impose pas en me disant, vu qu'il faut que ce soit fait pour telle date, faut que tu reviennes samedi, etc.
Donc, toi,
c'est toi qui t'organises. Ouais. Donc naturellement, à un moment, les timings, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc tu sens que y a besoin de revenir à telle heure, il y a besoin de faire telle chose, etc. Et je me souviens d'un dossier où, toujours avec ce counsel, j'avais des choses à refaire parce que je me souviens plus pourquoi, si c'est moi qui avais fait à l'envers.
Il y avait des choses à
revoir. Il fallait que ce soit moi qui les fasse. Il était minuit ou 1h du matin. Et lui ne pouvait pas réintervenir tant que je n'avais pas fait ce que j'avais à faire. Et il décide de rester avec moi. En me disant, j'attends que... Et quand tu auras fini, on rentre et je regarderai demain. Et donc, il me dit ça une fois, deux fois. Et je finis par me dire, en fait, c'est lui qui vit ce que je vivais quand moi j'attendais. Et il l'accepte pour pas que je reste tout seul, parce que je suis stagiaire, etc. Et que ça lui paraît normal. Donc je me dis, c'est quand même hyper classe, déjà, et hyper valorisant aussi du travail que je suis en train de faire. Bon, finalement, on s'était mis d'accord, je suis resté à bosser tout seul parce que je n'allais pas le retenir non plus, et puis parce que je savais que j'en avais pour un moment, et je lui ai laissé. Quand il est arrivé le lendemain matin, il a fait, mais sur le coup, il ne se sentait pas de demander à un stagiaire de rester tout seul, et ciao, bye bye, quoi. Et ça, donc le stage se passe très très bien. Je nourris beaucoup d'espoir à la fin de ces 2 stages en me disant que j'aimerais bien potentiellement être pris comme collaborateur. Et ça me donne envie de faire ce métier vraiment. Entre-temps, j'avais fait un stage PPI, mm-hmm. en banque, au Crédit Agricole Corporate Investment Bank, dans une équipe super. Très bien accueilli. Alors là, c'était vraiment sur la structuration de marché, émission de dette, etc. Mmh. Donc toute la documentation juridique. Donc très intéressant, très enrichissant. Je n'avais jamais vraiment fait ça, mais très juridique, très marché, etc. Et puis très détaché du concret de ce qui se faisait pour la banque, avec bah, ensuite les collègues de salle de marché qui devaient placer les produits, etc. Donc ça m'intéresse beaucoup, j'apprends beaucoup, je découvre la vie en entreprise aussi, qui est une autre vie. Mais pas excité.
Pas de coup de cœur, ouais.
Voilà, j'ai gardé des très bonnes relations avec eux. Mais voilà, je me dis, c'était une belle expérience, je vais pouvoir le faire valoir. J'ai appris des choses humaines, techniques, etc. Mais pas de coup de cœur. Je refais donc ce deuxième stage chez Franklin. Et là, je me dis, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça.
Et ils recrutaient pas ?
Et ils recrutaient pas. Enfin, je finis par être recruté tout de suite, avant même d'avoir le diplôme, dans une grosse structure américaine, qui en fait est la même structure que là où j'avais fait mon premier stage. Et je me dis que c'est un autre service, etc., etc.
Même donc, si la première fois,
voilà,
cette,
même si la première fois ça n'a pas été hyper sexy, etc. C'était peut-être moi aussi qui n'avais pas su me positionner, cette grosse structure. Et là, j'y vais avec beaucoup d'envie. Et très très vite, ça se passe très très mal.
Très très mal, ça veut dire
parce
quoi?
Que des relations que je ne comprends pas du tout avec avec certains responsables, qu'ils soient conseil ou associés, des remarques enfin insultantes, des choses comme ça. Donc je le prends avec beaucoup de détachement, parce que la force que j'ai eue, enfin la chance que j'ai eue, ou je sais pas comment on peut le dire, quand j'étais serveur, ça arrive de tomber sur des gros cons comme clients. Pardon pour l'expression, mais c'est, je trouve pas d'autres mots pour certains clients qui nous insultent très clairement, et où donc j'ai pris l'habitude. Enfin l'habitude.
En tout cas, tu étais endurci par.
Voilà, je me suis endurci et je sais que voilà, quelqu'un qui te dit certains mots, des fois c'est pas forcément ça, etc. Il faut savoir prendre du recul. Donc je me suis un peu endurci.
Mais quand même, tu revis ça.
Mais
cette
à un moment,
fois,
là, je revis ça dans un autre contexte où je me dis, ouais, mais maintenant, ça y est, là, je vais être diplômé. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça me paraît pas normal, ce schéma, etc.
Je suis censée être avec des gens éduqués.
Voilà, donc c'est bizarre, etc. Une très grosse structure, donc réussir à se positionner, parce qu'en fait, les autres collabs sont tous très cordiaux, mais on se regarde tous un peu tous, pardon pour la répétition, mais on est tous un peu suspicieux de l'autre. Est-ce que c'est un soutien? Est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que c'est un adversaire? Une ambiance où je me sens pas forcément très bien.
Sachant que toi en plus, enfin, moi ce que je retiens de tout ce que tu as raconté, c'est que tu as beaucoup fonctionné avec des groupes de travail, des mentors, des échanges, enfin peut-être. T'as vraiment tissé des liens qui t'ont permis d'avancer, donc.
Ça a toujours été ça, et donc là, je trouve pas de lien, en fait. Je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Et puis, au bout de quelques semaines, mois, donc j'étais toujours en période d'essai, donc oui, ça faisait même pas 3 mois, j'ai une réunion avec une des responsables, où on est que tous les deux dans la salle, et ça se passe très très mal. Des propos... voilà, injurieux, que je vis mal, et donc je suis bête et je réponds, et donc forcément une réponse entraînant une réponse, etc. Ça se passe pas bien, et je suis convoqué dans les jours qui suivent, ou même le soir même, je me souviens plus, par le responsable du service, qui m'explique que on va pas pouvoir continuer comme ça, et que donc on va mettre fin à ma période d'essai, et que je suis prié de bien vouloir
partir. Alors j'ai deux questions. La première, c'est comment tu l'as vécu, et la deuxième, c'est, tu dis je suis bête, j'ai répondu.
Oui.
Comment est-ce que tu aurais aimé réagir?
Alors je suis bête parce que j'ai répondu bêtement. J'ai répondu sur le même ton, avec des propos qui, s'ils étaient mieux tournés, étaient tout aussi irrespectueux. Avec le recul, comment j'aurais aimé répondre? Je pense que c'était la meilleure issue possible au final, donc j'ai pas de regret vis-à-vis de ça, puisque eux ne trouvaient pas ce qu'ils recherchaient dans un collaborateur, et moi je n'aurais pas été heureux dans mon fonctionnement quotidien, donc ça n'aurait été que mauvais. Oui, même avec le recul, je vois pas forcément d'autres issues. Même si je pense que j'avais pas à dire certaines choses à
en
cette
fait,
personne-là.
T'aurais répondu, mais,
voilà,
mais d'une autre
elle,
manière.
Elle n'avait pas, elle, à me dire certaines choses, ou en tout cas, pas à me les dire comme ça au départ. Donc, voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Je sais pas trop. Par contre, effectivement, je le vis comme, comme une injustice. Une injustice parce que j'ai pas pu montrer ce que je pensais pouvoir apporter, j'ai pas réussi à m'intégrer, et première expérience vraiment professionnelle qui se passe très mal. Donc je me reprojette quelques années en arrière en me disant, ouais, mais est-ce que c'est vraiment...
Les gens m'ont dit que je pouvais être avocat, et est-ce
voilà,
que...
est-ce qu'en fait, ils avaient pas raison quand ils me disaient pas pour moi, est-ce que je me suis pas vu trop beau, est-ce que... Et puis très vite, voilà, je rebondis, je me dis qu'il faut postuler, donc je cible différemment, évidemment, mes cabinets. Je décide d'intégrer des plus petites structures pour coller un peu plus
est-ce que tu avais
à ce que j'ai vécu chez Franklin, en me disant, tiens, c'est peut-être aussi ce format de structure. Et puis je finis par donc assez vite passer des entretiens et être embauché dans un premier cabinet d'avocat. Et puis là, j'arrive comme avocat réellement. Et là, pareil, je retrouve une bonne ambiance, plus petite, plus sereine, etc. Des dossiers qui, au départ, me plaisent bien. Et puis, un premier contact avec l'associée avec laquelle je suis amené à travailler, qui s'est plutôt bien passé et qui me fait entendre que les conditions financières ne sont pas forcément celles que moi, j'espérais. Parce que peut-être un peu déconnecté du marché et de la réalité, mais qu'à côté, je suis libéral, donc possibilité d'avoir une clientèle personnelle, etc. Et donc là, le début se passe très bien, une équipe avec d'autres collaborateurs plutôt jeunes, plutôt bienveillants, justement, tout le monde sait à peu près comment aider l'autre, il y a moins, j'ai le sentiment, ce regard de « est-ce que t'es un concurrent, est-ce que si ?» C'est plus de la co-construction, comme tu disais, même si c'est pas du mentorat, c'est du partage. Et puis bon, le temps passe, ça se passe plutôt pas mal, je commence à avoir la chance de... pouvoir avoir quelques dossiers perso, j'y prends goût, parce que la relation client, parce que assez vite, dans ce cabinet-là, je suis au contact même des clients du cabinet. Alors, il y a évidemment des questions de responsabilité, donc je suis revu, relu, on vérifie, etc. Mais très vite, sur certaines choses, je suis en contact direct. Donc, prise de plaisir, prise de confiance, etc. Puis peut-être trop de prise de confiance, donc je commence à vraiment vouloir... un peu développer de la clientèle perso, donc je vais un peu à droite à gauche, donc des fois le matin, etc. Et puis justement à l'époque, je donnais des TD à l'université, donc j'avais commencé pendant que j'étais...
C'était l'année où tu nous as eu notre promo.
Ouais, c'est ça, je donne mes cours de TD, ça se passe bien, ça me plaît d'enseigner. Je découvre votre promo, donc maintenant je peux le dire, vous étiez mes premiers, oui c'est ça, ta promo, vous étiez mes premiers étudiants. Donc j'arrivais avec beaucoup d'anxiété, de stress, j'espère que ça s'est pas trop mal passé.
Non, enfin, j'ai pas
envie de se dire. Moi en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de pouvoir transmettre, et puis surtout d'être challengé. Et puis bon, moi, au quotidien je suis dans du fiscal, et j'ai toujours... j'aime bien le droit civil, enfin les bases du droit, et donc je donne des cours en régime général des obligations, ce qui me permet aussi, voilà, et j'ai la chance d'être avec des étudiants assez challengeants. Je me souviens de 2-3 fois où, vous aviez vu des arrêts, vous me disiez, tiens, ça, moi j'avais pas encore eu le temps de le voir, donc fallait que je me remette dedans, que je revienne la semaine d'après avec une réponse, etc. Donc ça m'apprend un peu tout ça, mais forcément, y a des moments où, même si les TD sont tard, ça m'oblige des fois à être un peu absent, à être un peu tout ça. Et on me fait comprendre petit à petit qu'il faut quand même que je sois plus souvent présent et disponible au cabinet, et ou en tout cas que peut-être je communique plus sur mes absences. Ce qui, sur le coup, me fait un peu bizarre.
Donc tu es dans cette collaboration, Simon, où tu constates que finalement le deal initial qui est une rétrocession d'honoraires moindre, mais par contre une possibilité de développer et d'avoir vraiment des clients perso,
possibilité que tu t'appropries pleinement, tu n'arrives pas forcément à le mettre en œuvre, ça ne se passe pas forcément de manière souple avec ce cabinet.
C'est tout à fait ça. Donc, face à ce constat, je me dis que c'est peut-être moi qui n'ai pas forcément bien appréhendé le début de carrière par rapport à cette liberté de l'avocat libéral. Et puis, dans le cadre de mes recherches, je découvre en fait la possibilité d'être avocat salarié dans un cabinet bien plus important, bien plus structuré, donc avec des avantages au niveau de la rétrocession, enfin, qui devient un salaire. Et par contre, des inconvénients, des contraintes, puisque je suis salarié, et donc un abandon de ce statut libéral, clientèle personnelle. Et je me dis que ça peut être une bonne occasion de me relancer dans une structure plus grande échelle, où j'ai connu des expériences précédentes pas toujours hyper positives, mais dans cette structure qui est très grande, je rejoins en fait une toute petite équipe. Donc je me dis que ça peut être la bonne opportunité.
Avant de penser là-dessus, j'ai quand même deux petites questions. La première, c'est est-ce que tu penses que justement cette faculté développée qui finalement n'en était pas vraiment une, est-ce que tu penses que c'était surtout une histoire de communication avec ton cabinet, de comment tu t'organisais, de finalement que ça aurait peut-être pu être possible si tu avais été plus clair sur ton agenda, si tu en avais mieux parlé avec eux, tu vois, plus dans le lien en fait
Alors avec le recul, je pense que oui, ça aurait été plus facile pour eux à appréhender. Après, en toute honnêteté, je pense que pour un associé embauchant un jeune collaborateur, et encore une fois avec le recul, on a beaucoup de choses à apprendre en début de carrière, ils s'attendent aussi à une présence plus dévouée, plus intensive sur place, et quand bien même on communique en disant « tiens, tel jour, je ne suis pas vraiment là, mais ce n'est pas un jour de congé, parce qu'en fait, c'est ma clientèle perso », ça paraît difficile, d'autant plus dans des petites équipes où chaque force de travail est hyper importante face aux clients pour les délais, etc. et la disponibilité. Donc je pense qu'il y a un petit côté vert qui est déjà dans le fruit en rejoignant peut-être ce type de structure. Il faut accepter sans doute de prendre le temps un peu plus, ce que j'ai pas forcément fait, parce que j'avais envie encore à cette époque-là de me dire qu'il me fallait un mentor. Et donc c'est difficile d'avoir et à la fois un mentor et en même temps de vouloir voler de ses propres ailes. C'était un petit peu le double visage de la profession que j'avais un peu du mal à appréhender. Mais avec le recul, sans doute qu'un peu plus de communication aurait été utile. Après, je regrette pas. Et puis ça s'est passé comme ça. Et...
Non, mais c'est sans regret. En fait, je te pose cette question parce que je discutais de ça justement avec un ami... Et il disait, quand même, le fait est que c'est une vaste blague, cette histoire de collaboration libérale. Et pourtant, lui, je crois que ça se passe plutôt bien dans son cabinet. Mais il a du mal à voir comment est-ce qu'en pratique, il peut dire, cette demi-journée-là, je vais développer ou je vais travailler
sur des projets. Ouais, je pense qu'il faut, c'est le côté, se réserver des plages horaires en fait plus courtes, peut-être, qui sont plus facilement aménageables. Mais qui soient des vraies plages horaires. Moi, j'avais plutôt tendance à me dire tiens, je vais prendre une heure par-ci, deux heures par-là, comme ça j'avais l'impression d'être quand même là, sauf qu'on est là sans être vraiment là. Et des notions de peut-être demi-journée, c'est peut-être plus facile à entendre. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui où j'ai d'autres amis qui, eux, continuent leur activité libérale et qui s'aperçoivent que même en prenant des fois des temps partiels, des choses comme ça, dès qu'on veut réaménager un peu, c'est pas toujours évident. Après, faut réussir à établir le contact et la bonne relation. Je pense que c'est surtout ça le point de départ, être avec quelqu'un qui veut vraiment nous accompagner, à nous développer, quitte à ce qu'un jour, il ait conscience qu'on va quitter le cabinet parce qu'on montera notre propre structure. Donc c'est vrai que dans le métier, le côté libéral, c'est un peu délicat, un peu difficile, je pense, à mettre en œuvre réellement dans toutes les structures.
Et ma deuxième question, c'est est-ce que toi, ça te posait pas de problème de passer sur un régime salarié ? Enfin, t'avais pas un imaginaire et quelque chose que tu calquais sur le libéral comme dans le mythe de la profession un
Alors,
peu ?
au tout début, ça m'aurait, entre guillemets, embêté. Après cette expérience, je me disais qu'au final, c'était difficile de trouver un vrai libéral, parce que je partais un peu bille en tête, et avec cette réflexion, en me disant, de toute façon, c'est purement du fake, il n'y a pas de vrais libéraux, donc autant dire que je suis salarié. Et puis, je suis dans un domaine d'activité, le fiscal, où on est quand même très encadré, les institutionnels passent beaucoup par les cabinets, c'est difficile d'aller démarcher même une start-up, faut quand même connaître les dirigeants. Donc, moins gênant que pour un pénaliste, que pour un civiliste pur, où c'est facile de je discute avec toi, tiens, j'ai une spécialité, on est dans un cocktail, j'échange ma carte, t'as besoin de moi demain. Plus facile. La fiscalité reste quand même un secteur d'activité où ça me met forcément moins de freins suite à cette première expérience et suite, et en raison du secteur d'activité dans lequel je suis. Donc, non, à ce moment-là, je me lance sans restriction dans ce cabinet que je rejoins. Et donc, c'est une petite équipe au sein d'une très grosse équipe. Et en fait, très vite, au début, ça se passe bien, les gens sont très sympathiques, les collègues, mais je m'aperçois qu'il y a ce côté très hiérarchisé, très stratifié, où moi, je réalise une mission pour la personne qui est juste au-dessus de moi, qui elle-même doit la redonner à une personne au-dessus d'elle, ainsi de suite. Et ça, c'est assez perturbant dans la relation de travail, parce que j'ai l'impression des fois qu'on a des pertes de temps, des incompréhensions par rapport à l'information qui est détenue tout en haut et qui me revient forcément un petit peu déformée. Et moi, entre ce que j'ai compris et ce que je restitue pour tout en haut, forcément, entre-temps, il y a eu des déformations. Donc ça, c'est frustrant. Et puis, des relations entre collègues qui sont cordiales, mais qui sont encore une fois stratifiées. Donc moi, à l'époque, j'ai un grade N, et puis les gens qui sont N plus 1, N plus 2, etc., me font bien comprendre qu'on peut discuter de dossiers ensemble, que si on est dans un événement professionnel, on peut faire semblant de se raconter nos vies, mais par contre, on ne partage pas un déjeuner, etc., on ne va pas aller manger ensemble. Si on est en train de finir tard sur un dossier un midi, et qu'au lieu de se dire « tiens, je vais prendre ma pause pour aller manger vers midi et demi ou 13h », et qu'il est plutôt 14h, on ne convie pas son supérieur à dire bah viens on va chercher un sandwich. Lui éventuellement il peut te convier en disant viens on va chercher un sandwich, on continue à travailler ensemble, mais toi en sens inverse, c'est pas la démarche naturelle. Donc ça plein de petites choses qui me font un petit peu bizarre. Et puis en plus je suis dans une structure où là on devient en fait justement par rapport au statut salarié une vraie ressource de travail, et où donc quand une équipe à laquelle tu es rattaché a un petit peu moins d'activité, en fait tu peux être utilisé par au final une autre équipe qui à ce moment-là a un besoin complémentaire, une surcharge de travail, et donc en fait je suis dans une équipe sans vraiment y être et sans vraiment savoir avec qui je travaille. Et donc là au final, chose que j'avais pas du tout envisagée au moment où je pars, effectivement le statut salarié me gênait pas. Et là en fait je me retrouve à vraiment sentir ce côté ressource, à pas réussir à m'intégrer entièrement au niveau humain avec l'équipe.
T'as pas réussi à trouver ta place quoi.
Je parviens pas vraiment à trouver ma place. Et puis un jeu politique en fait entre chaque associé de chaque département, petit service, etc., dans lequel je ne m'inscris pas du tout, que je ne lis pas du tout et que je n'appréhende pas du tout. Donc forcément, encore plus difficile de trouver ma place, parce que forcément, quand à un moment, en fait, je suis interpellé pour aller travailler avec telle équipe, je m'aperçois que c'est l'associé qui s'entend pas avec l'autre associé qui m'a embauché, etc., etc. Et donc ça crée des tensions. En voulant rester, en fait, en dehors de tout ça, je finis par alimenter un mal-être pour moi, un mal-être, je pense, pour l'équipe aussi, parce qu'ils voient bien que j'arrive pas à m'intégrer et à comprendre le mode de fonctionnement. Et donc, au fur et à mesure du temps, de plus en plus difficile, parce que une compréhension et une discussion de plus en plus difficile entre le chef de... l'associé responsable du service dans lequel je travaille et moi-même. Situation qui me pèse vraiment au quotidien, parce que ça dure des mois et des mois et des mois, vu que je reste quand même un petit moment dans ce cabinet. Et à un moment donné, justement, en rentrant de congé d'été, je m'aperçois que j'ai vraiment la boule au ventre en repartant à ce travail, après avoir fait une bonne pause estivale. Mais je repars, ça y est, de nouveau, au bout de 2-3 jours, je vois bien que j'ai la boule au ventre, ça me pèse, mais je m'en rends pas vraiment compte, et c'est mon ami qui un soir me dit qu'il faut que je fasse quelque chose, parce que moi je me rends pas compte que ça me pèse, mais en fait ça pèse aussi sur mon couple, sur mon bien-être.
Donc toi, etc., vraiment t'avais pas senti que je sais pas, peut-être que tu dormais moins bien, que t'allais avec moi, enfin je sais pas, tu vois.
Si, je le sens, mais j'ai l'impression que ça va finir par s'améliorer. Je me dis que c'est pas possible, je vais finir par entre guillemets rentrer dans le cadre, réussir à m'adapter, comprendre, et que ça finira par aller mieux et qu'il faut se battre. C'est quand j'ai cette discussion avec mon amie qu'elle me dit « Bon, écoute, tu vois bien, là, t'as donné tout ce que tu pouvais, tu vois bien qu'à un moment, il y a un souci technique de compréhension. Il faut soit que tu partes sur autre chose, soit que tu changes de copine », elle me dit. Donc, je décide de rester avec elle, je commence à entreprendre de chercher un autre travail avec, effectivement, un petit goût amer de l'échec. En me disant, bon, bah voilà, quand même, mince, ce cabinet ça n'a pas fonctionné, ce type de structure effectivement n'est pas pour moi, et forcément je remets un peu en perspective ces premières années d'expérience, et puis le fait que avant de devenir avocat, j'avais donc rencontré mon ancien professeur qui m'avait parlé du métier d'ingénieur patrimonial, et donc je prends le temps quand même de réfléchir quelques semaines même. Et de me demander, est-ce que l'avocature est faite pour moi ? Oui, non. Ça, j'ai pas vraiment la réponse. Est-ce que j'ai envie de voir autre chose ? Plutôt oui. Pourquoi ? Etc, etc.
Et alors, c'est quoi toutes les réponses à ces questions ?
Alors, toutes les réponses, l'avocature, je pense que c'est fait pour moi. C'est un métier qui me plaît, mais pour autant, dans lequel je peux faire autre chose. Je suis pas obligé d'être avocat. Ce qui me plaît, c'est la relation clientèle, en fait. Délivrer du conseil et accompagner et créer une relation vraiment sur le long terme. Et puis oui, j'avais envie de voir autre chose, mais pour autant, qui restait dans mon domaine d'activité, de connaissances, de formation. J'avais pas envie de mettre à la poubelle, entre guillemets, tout ce que j'avais acquis.
Plaît, en fait, le fiscal,
Et le sujet me plaît. Le sujet, voilà, même si historiquement, de manière, il m'est arrivé un peu, voilà, comme ça, tombé de nulle part, ça me plaît. Donc, je veux rester là-dedans et je repense à la conversation, enfin aux conversations que j'avais eues avec ce professeur, et je me dis qu'effectivement, ingénieur patrimonial, c'est peut-être le moment. Il s'avère qu'à ce moment-là, l'activité des ingénieurs patrimoniaux dans les établissements bancaires et les établissements bancaires au niveau de leur activité se portent mieux que au moment où j'avais fini mon diplôme. Donc, effectivement, il y a des opportunités. Je passe un certain nombre d'entretiens et je rejoins donc le groupe BNP Paribas.
Ça a été dur, quand même, de lâcher la robe ?
Ça a été... Alors, pendant toute la période d'entretien, pas de questions, parce que, bah, de toute façon, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas réalisé, je me pose pas de questions. Effectivement, au moment de signer le contrat, de se dire, bon, ça y est, on va raccrocher la robe, et puis de faire toutes les démarches administratives, oui, il y a eu un petit pincement au cœur. Après, je le faisais en toute connaissance de cause. Je savais sur quoi je partais, je restais d'un statut salarié que j'avais connu dans ce cabinet à un autre statut salarié pour faire autre chose, et je gardais à l'esprit que bah, pourquoi pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans...
Tu le voyais comme une liberté, quoi.
Je le voyais voilà, plus comme une nouvelle étape que comme une liberté, okay. Parce que je n'avais pas l'impression d'être enfermé, mais voilà, nouvelle étape, prise de maturité, apprendre un nouveau métier, une nouvelle approche avec les clients... Donc, même s'il y a un pincement au cœur, parce que la robe, parce que dire que t'es avocat, malgré tout, pour les gens, ça leur parle, et que, comme tout le monde, on a un petit peu d'ego et que c'est toujours agréable de dire « oui, effectivement, je suis avocat », je le fais en étant content. Je pars réjoui de cette future expérience qui s'offre à moi, et donc je me retrouve tout début... 2017 à rejoindre le groupe BNP Paribas pour un nouveau poste qui est situé à Reims, en Champagne-Ardenne donc. Donc je quitte la région parisienne et Paris que j'ai toujours connu. Un challenge aussi géographique parce que nouvelle philosophie de vie, nouvelle approche de la part de mes collègues, de mes clients qui voient d'autres choses. Et puis je découvre un métier où en fait... En étant basé à Reims, mes clients sont basés, enfin les clients de la banque que je rencontre, vont de la frontière belge, donc du nord des Ardennes, jusqu'au sud de Beaune. Donc j'ai la chance d'être sur une région pleine de bons vins. Alors évidemment pas en conduisant, mais ça fait un très grand secteur avec des problématiques et des diversités géographiques et sociologiques
et ça te plaît ?
Différentes. Et très vite, je m'aperçois que c'est ce que je veux faire. C'est ce que je voulais. J'ai des rencontres clients très régulières, diversifiées, avec évidemment des problématiques qui sont assez liées et communes, hein. Ça va pas non plus, je passe pas du tout au tout, ça reste fiscal, patrimonial, c'est diversifié parce que c'est fiscal mais patrimonial, donc aussi civil, et puis tout de suite j'ai un rôle en première ligne, à rencontrer les clients, à leur délivrer du conseil, alors évidemment en accompagnement de leurs avocats, de leurs notaires, etc. On n'est pas là pour l'ingénieur.
Voilà. Ouais.
L'ingénieur patrimonial n'est pas là pour remplacer les professionnels du droit qui ont la compétence juridique exclusive. Mais je m'inscris aussi dans un collectif au sein de cette entreprise avec plusieurs ingénieurs patrimoniaux qui très vite m'accueillent très bien. M'apprennent aussi le métier sur les aspects que je connais pas, parce que moi je suis plus un théoricien, ils le savent bien, j'arrive de cabinet d'avocat, mais le monde de la banque, les produits typiques que nous allons commercialiser, etc., et puis bah, les rouages aussi d'un tel établissement, il faut que je les appréhende et que je les appréhende vite. Et ça, à ce niveau-là, l'équipe qui est déjà en place m'accueille très bien et m'aide énormément. Donc tout de suite, je passe dans un autre univers.
Mais finalement, avec une liberté en termes de relation client qui est accrue par rapport à quand tu exerçais en tant qu'avocat, ce qui peut paraître paradoxal, mais enfin, je dis ça parce que je pense que beaucoup d'avocats ont plaqué sur le statut de salarié et de salarié en entreprise, encore plus en grande entreprise, comme étant dépourvu de... Ouais, comme tout... si tu n'avais plus de clients, alors qu'en fait, ton client, il est ou en interne, ou avec les clients, voilà. Et tu peux avoir cette liberté.
Mon vrai client, c'est mes collègues banquiers privés, puisque le dispositif fait que je suis toujours en double intervention avec un banquier privé qui, lui, a son fonds de commerce avec les clients, et je viens en soutien sur ses clients personnels. Après, c'est une relation tripartite. Hein. Son client devient un peu mon client, et il demeure mon apporteur d'affaires, et ainsi de suite. Mais effectivement, comme tu le dis, je me retrouve dans un système où c'est mon secteur, c'est mon emploi du temps, et c'est moi qui dois gérer avec toutes ces contraintes. Et donc,
c'est ça des, répond c'est à ce qui te plaisait, en fait. Ouais.
Mais effectivement, c'est beaucoup de liberté de pouvoir, dans une journée, se dire, là, je vais faire que des rendez-vous, là, je vais essayer plutôt de me mettre à jour sur tel et tel sujet. Là, j'ai une réunion parce qu'on reste une grande entreprise et que donc il y a forcément aussi des réunions, que ce soit de formation ou de fonctionnement logistique, d'organisation. Mais ça répond beaucoup plus à ce que je voulais dans le mode de fonctionnement. Et effectivement, assez paradoxalement, d'un statut qui est là vraiment salarié d'une grosse entreprise et encore plus, je pense, dans l'imaginaire des gens, d'une banque, j'ai plus de liberté dans la façon de travailler que lorsque j'étais notamment, même dans les deux cabinets, aussi bien libéral que salarié, puisque j'avais quand même beaucoup de comptes à rendre quotidiennement sur qu'est-ce que tu as fait, quelle a été ta timesheet, combien tu as facturé, est-ce que c'est facturable, pas facturable, etc. Et donc là, j'ai ce sentiment de liberté. Alors avec la force que j'ai d'avoir une expérience en cabinet d'avocat en me disant, bah tiens, ça c'est...
Et c'est ce que j'allais te demander, du coup, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte, cette première expérience en tant qu'avocat, dans cette... Enfin voilà, en quoi est-ce que ça enrichit ou...
Bah je pense que ça m'aide à rationaliser justement... Enfin, rationaliser. C'est très capitaliste comme terme, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est rationaliser mes heures de travail, en fait.
Bah l'idée, c'est
savoir, voilà, que... Ça, c'est du vrai temps passé pour un dossier qui va nous aider ensuite à apporter de la satisfaction client. Ça, c'est du temps de recherche personnelle dont j'ai besoin pour pouvoir peut-être en démarcher d'autres. Et ça, c'est plus de la recherche individuelle qu'il faudra que je fasse pendant du temps personnel ou à un moment d'activité où c'est plus calme. Donc ça m'aide pas mal à cadrer ça. Et puis, malgré tout, ça m'aide aussi sur le positionnement avec les clients. Parce que même si dans le cabinet où j'étais salarié, là, l'inconvénient, c'était que j'avais plus aucun contact clientèle, puisque j'étais la petite main de la petite main de la petite main. Donc, je faisais de temps en temps des rendez-vous clients, mais j'étais celui qui prenait... J'étais le scribe, très clairement. Mais j'ai quand même vu des plus expérimentés se comporter face à des clients. Et puis, j'avais cette première expérience dans mon premier cabinet d'avocat, où là, j'étais en contact direct. Et donc, ça m'apprend aussi à bien me positionner, à savoir jusqu'où, en tant qu'établissement bancaire, on peut s'engager, se positionner et à quel moment il est nécessaire justement de renvoyer vers des professionnels qui, eux, ont la responsabilité professionnelle, les assurances aussi qui vont bien. Et donc ça, ça m'aide aussi en termes d'efficacité. Et je pense aussi qu'à titre personnel, le fait d'avoir un diplôme d'avocat, une expérience en cabinet d'avocat, on ne va pas se le cacher, pour les collègues, au moment où j'arrive, ça m'apporte une certaine crédibilité. Après, il faut la démontrer. Mais ça permet dans les premiers rendez-vous qu'ils aient plus facilement envie, en tout cas, de m'y emmener sans risquer de s'exposer, puisque ce sont eux mes clients, mes apporteurs d'affaires. Ils se disent, bon, je peux l'emmener, et après, bah, j'ai fait mes preuves dans les rendez-vous. Et effectivement, ça s'est bien passé, donc c'est comme ça que j'ai pu développer. Ouais. Mais...
Non, mais je te pose cette question, parce que, tu vois, initialement, mon envie d'interviewer des... C'est toujours le cas, d'ailleurs, hein, des avocats reconvertis, c'est vraiment pour dire aux auditeurs qui nous écoutent, et peut-être aux avocats qui pensent faire autre chose, et qui savent pas si... Enfin, qu'en vrai, cette expérience, elle est pas perdue, elle est toujours valorisée, et on a toujours des choses à réutiliser, en fait.
Je suis... Enfin... Moi, je pense vraiment que c'est au niveau universitaire même, la manière dont les juristes sont formés, on a quelque chose qui est un petit peu différent des autres, où on est quand même, pour la plupart, assez cadré et on sait bien hiérarchiser les choses. Et je pense aussi emmagasiner la pression, savoir se dire, après coup, tiens, ça, c'est peut-être un peu moins urgent. Donc je vais le traiter après, ça c'est pas si grave, donc je sais gérer la pression que va me mettre tel ou tel collègue face à son dossier ou tel client et savoir le tempérer. Donc ça c'est des bonnes choses qui peuvent même me servir comme responsable administratif, dirigeant d'entreprise,
ouais, chef
de projet, enfin qui sont très utiles. Et on voit encore récemment, là j'étais justement jury pour BNP Paribas dans le cadre d'un concours avec des jeunes étudiants. Donc c'est le concours AGFI Actif. Et ces étudiants que j'interrogeais, il y en avait une partie qui était des financiers purs à la base et une partie qui était des juristes purs. Et ils se retrouvent en Master 2 tous ensemble. Et je voyais bien cette structure de l'esprit de la part des juristes dans l'exposé qui était bien plus cadré, structuré. Et où on voit tout de suite où ils veulent en arriver. Donc c'est des choses, des formations et des expériences qui sont toujours... bonne et réutilisable. Et c'est vrai que l'avantage de l'entreprise, c'est que je me retrouve avec des gens qui ont des horizons et des parcours très différents, et donc on se complète et on voit assez vite que moi je peux lui apporter quelque chose, mais lui aussi peut m'apporter quelque chose. Ce qui en cabinet, en fait, on arrive avec tous le même bagage, la même façon de penser, et où donc c'est plus difficile de sentir de la part d'un collègue cet aspect de complémentarité.
Je pense que c'est hyper, enfin, je pense que c'est difficile pour un juriste ou pour un avocat, enfin, pour toute personne qui fonctionne un petit peu en système clos, d'avoir conscience de ses qualités qui sont pas les qualités de tout le monde. On a l'impression que c'est les qualités de tout le monde parce que être que entre avocats, on a l'impression que tout le monde sait gérer un certain flux de travail, tout le monde sait rédiger d'une telle manière, s'exprimer d'une telle manière. Et en fait, tu step out, tu vois, tu mets un pied dehors et tu te rends compte que c'est pas du tout si évident pour tout le monde et que c'est des vraies qualités individuelles.
Tout à fait. Je sais pas si je les avais à la base, mais en tout cas, ma formation, c'est certain, et mon expérience professionnelle me les a apportées. Et puis, c'est vrai que tu disais aussi, en traînant entre avocats, t'as l'impression que le rythme normal, c'est de commencer... alors, à Paris, c'est plutôt 9h30 en cabinet. Ça, je découvre aussi en province que c'est plutôt 8h30, c'est pas mal. Donc moi, j'arrive avec des habitudes de parisiens, donc ils me regardent tous avec des grands yeux. Et puis, bon, bah, qu'on va finir à 20h, 21h, et qu'il n'y a rien d'anormal à sortir du cabinet à 21h.
Je suis sortie tôt aujourd'hui, je suis partie à 20h.
Ouais, voilà.
à quel moment c'est
tôt ? Je m'aperçois que dans les autres professions, c'est pas le fonctionnement, et en plus... En province aussi, on part plus tôt. Et donc ça permet aussi de remettre un petit peu les choses, les priorités. Après, je continue à titre personnel de bien travailler le soir, mais parce que c'est mon organisation et parce que je le veux comme ça et que je me sens libre, mais je ne sens pas le besoin de me dire je le fais parce qu'on me regarde ou tiens, pourquoi mon collègue le fait pas. Voilà, chacun fonctionne différemment. Et donc ça, c'est enrichissant. Après, forcément, j'ai quelques collègues qui me regardent avec des grands yeux, en me disant, mais comment ça se fait que tu sois encore là ? Ou t'es parti à quelle heure hier ? Bon, ça c'est aussi une richesse pour pouvoir se redévelopper dans l'entreprise, parce que c'est forcément aussi une qualité de pouvoir travailler longtemps, mais c'est pas une fin en soi non plus. Il y a des jours où je prends un peu plus de liberté et c'est fort agréable. Mais effectivement, il faut être conscient que nous, ancien avocat ou avocat, on a une manière de travailler qui est différente et on a une richesse à apporter pour les entreprises, pour notre entreprise qui nous embaucherait ou qu'on crée, qu'on pourrait créer. Et on a aussi des choses à apprendre des autres professionnels et des autres manières de travailler à travers la France et puis même l'Europe, puisqu'en Angleterre notamment, je sais qu'ils fonctionnent un petit peu différemment. Mais donc, je me retrouve dans cette expérience qui me plaît énormément, avec beaucoup de liberté, dans une entreprise qui est riche de profils, qui sait aussi quand même... Alors, ça reste une grande entreprise, donc c'est un... on va prendre l'image du paquebot, hein. Dès qu'on veut orienter, bon, bah, c'est un peu plus long, mais qui sait quand même écouter les différences de profil, les aspirations des salariés, et où il est toujours possible à un moment d'être entendu. Écouter, des fois, c'est un peu plus long, mais entendu. Ce qui, c'est vrai, me change un petit peu du monde du cabinet d'avocats, où tout est tout le temps très speed, très urgent, on n'a pas forcément le temps de gérer les ressources humaines, de se poser les questions. Est-ce que...
C'est pas qu'on l'a pas, c'est que ce temps n'est pas pris.
Oui, enfin, voilà, parce que c'est un vrai métier déjà, enfin un vrai métier, une vraie compétence à avoir, et puis c'est très chronophage hein, en termes de on parlait tout à l'heure de rentabilité du temps. Pour un cabinet d'avocats, c'est vrai que si à chaque fois on doit écouter chaque collaborateur, qu'il soit libéral ou salarié, sur ses aspirations, etc., c'est un investissement vraiment, j'entends, qui est lourd en temps et en argent, puisque le temps, c'est de l'argent. Je vais faire que répéter des dictons classiques, mais... Et voilà. Donc, est-ce qu'ils ont envie de dépenser cet argent-là? Je ne pense pas. Certains le font, parce que ça a quand même... Si dans les grandes entreprises, ils le font, c'est que ça a quand même un avantage. Mais donc là, je me retrouve dans une structure où, effectivement, je suis entendu, pas toujours écouté, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les aspirations tout le temps, mais au moins, déjà, d'être entendu, c'est quelque chose de très différent. Et c'est vrai que moi, c'est rigolo aussi, parce que forcément, on parle avec ses collègues de son quotidien, de ce qui va bien, et souvent, comme on est français, de ce qui ne va pas. Et c'est marrant de voir mes collègues qui ont connu que la banque, et la banque dans laquelle je travaille, peuvent, sur certains points, forcément avoir des irritations, des énervements, etc. Et donc moi, avec mon regard un peu extérieur, de leur dire « Attention, on n'est peut-être pas... c'est pas parfait. » Moi aussi, j'ai des griefs envers mes responsables, mais c'est pas si mal. Et faut savoir, faut savoir d'où on vient. Donc pour eux, c'est aussi quelque chose d'assez drôle de m'entendre dire ça en disant non, mais attends quand même, oui, mais vous n'avez peut-être pas connu ça. Vous mettez en perspective, etc., etc. Et donc c'est appréciable aussi justement de s'enrichir comme ça d'expérience parce que ça leur fait pas forcément du bien, je vais pas dire que je suis...
Non, non, mais c'est un partage. Mais c'est drôle, puisqu'à Sciences Po, donc je fais un master exécutif en ressources humaines, et à chaque début d'intervention, ils nous demandent d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait là. J'explique que je suis une ancienne avocate en reconversion professionnelle, et si jamais, pendant le cours, je pose une question et tout, souvent, ils disent... Oui, non, mais les avocats, c'est particulièrement compliqué. Non, mais... Chez les avocats, c'est particulièrement compliqué. Et ça me fait rire parce que ça relance ce que tu dis, quoi. On part dans certains contextes et donc après, quand on arrive dans d'autres conditions, potentiellement...
Faut réussir à prendre du recul sur la profession d'avocat. Entre nous, pas se dire que tout le monde fonctionne comme nous, c'est exactement ce que tu disais, et se dire qu'il y a des entreprises qui ont déjà fait ce chemin. Donc soit on a envie de s'inscrire là-dedans et ça peut être l'occasion de découvrir autre chose, mais c'est aussi la bonne idée, je pense, pour chacun de ceux qui ont l'envie de rester dans les cabinets d'avocats ou qui sont en responsabilité, d'avoir ça aussi à l'esprit et de mettre en place petit à petit les chemins, les petits cailloux qui peuvent aider à améliorer tout ça. Parce que même si je m'épanouis énormément dans mon métier aujourd'hui, Je garde une affection particulière pour...
J'allais te demander quel était ton rapport à la robe et à la profession maintenant que tu n'es...
Enfin, eh ben, donc voilà. C'est... Non, comme je dis, enfin, je le disais il y a quelques minutes, quand j'ai changé de métier, je raccrochais la robe, je la mettais au placard, mais je la détruisais pas. Peut-être que je la ressortirai jamais. Peut-être que je la ressortirai. Et puis bon, forcément, comme tout avocat, je connais énormément d'avocats. Donc je garde un pied un petit peu dans la profession et une affection pour la profession. Avec le recul, je pense que c'est vraiment une très belle profession, qu'il y a possibilité pour ceux qui le veulent de vraiment faire des belles carrières, et qu'il y a possibilité d'avoir presque autant de carrières d'avocat que ce qu'il y a d'avocat sur la place en France. Puisque en fonction des affinités, en fonction des volontés de chacun d'être plus ou moins libéral, plus ou moins dans une grosse structure, et en fonction des caractères de chacun, de trouver aussi ce qui lui correspond. Peut-être qu'un jour, je finirai par reprendre la robe. Aujourd'hui, le métier que je fais me convient parfaitement parce que, justement, j'ai cette approche et ce relationnel avec les clients qui permet de partir du diagnostic, de l'étayer avec des conseils spécialisés, notaires, encore une fois, etc., avocats, et ensuite de proposer la solution et la mise en pratique effective. Parce que l'établissement pour lequel je travaille a des solutions financières, etc.
Oui, donc en fait, tu es vraiment dans une logique de fluidité, quoi. Tu as été avocat, tu as appris plein de choses. Là, tu rejoins un autre métier dans lequel tu apprends d'autres choses qui sont complémentaires et tu ne te fermes pas la porte de revenir dans la profession pour y développer quelque chose qui sera sûrement un mélange de tout ce que tu auras appris jusqu'ici. Voilà. Et c'est ça qui est chouette.
C'est ça. Il y a des avocats et des métiers qui sont en train de se développer qui regroupent un peu tout ça. Donc à voir ce que je ferai plus tard. Pour l'instant, je suis très heureux dans mon métier et justement dans ce relationnel client et cette entreprise qui, malgré tout, écoute, permet aussi d'avoir des perspectives. Et pour un jeune, parce que je reste encore jeune, ça offre des perspectives de carrière, soit dans l'entreprise, soit de se dire qu'à un moment, au bout de 5 ans, 10 ans, bah, j'ai pris cette expérience. Et je vais apporter encore autre chose à quelqu'un d'autre. C'est vrai que notre génération, et moi peut-être particulièrement, j'aime bien aussi réapprendre des nouveaux métiers, réapprendre des nouvelles façons de faire. Et donc, pourquoi pas un jour reprendre la robe. Mais après, je ne sais pas ce que ça donnera plus tard.
Et alors Simon, quelle est ta source d'inspiration actuelle ?
Alors ma source d'inspiration actuelle, c'est un petit peu la même que celle qui a toujours été ma source d'inspiration. Enfin, c'est la même depuis toujours. En gros, c'est mes parents qui m'ont toujours appris à ne pas lâcher, à s'engager avec détermination dans les combats qu'ils considéraient comme importants. Et puis, mes amis qui m'ont montré qu'il était possible aussi d'avoir d'autres carrières, puisque j'ai quelques amis qui ont totalement changé de carrière, qui se sont lancés après avoir fait... du commercial, des grandes écoles de commerce se sont lancées dans des carrières artistiques. Donc c'est vrai que c'est un exemple que je garde dans un coin de ma tête. Et puis tous les gens comme toi qui sont pleins de bonne volonté et qui se lancent dans des projets innovants, positifs surtout. Je veux toujours être positif. Et je trouve que c'est un projet très positif que Fleur d'Avocat, de mettre en valeur aussi les avocats qui sont heureux de leur métier et qui aiment ce métier. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. C'est tout cet environnement.
Et quelle est ta dernière joie ?
Alors ma dernière joie, là, c'est d'être en vacances depuis quelques jours maintenant et de partir prendre un petit peu le soleil là pendant une semaine dans le sud de la France. Donc ça, c'est très plaisant.
Super. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Je n'ai plus de robe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon.
Merci, Lila Louise.
Pour cet entretien.